accent d'Europe, Frédéric Lebel.
L'enjeu est de taille, il va déterminer un grand nombre des libertés et des valeurs démocratiques de la Turquie des prochaines années. 55 millions d'électeurs sont appelés à voter ce dimanche pour ou contre le régime présidentiel voulu par leur chef d'État, Recep Tayyip Erdogan. Un référendum crucial après une campagne difficile pour l'opposition. Reportage à Istanbul d'Anand Lawar.
Dans quelques heures, Istanbul retrouvera son calme, ou plutôt son vacarme habituel. Mais pour l'heure, ses avenues résonnent encore des musiques de campagne. Comme ici, à Beşiktaş, à deux passages piétons du Bosphore, dans le centre-ville. Sur une petite place, deux tentes blanches se font face. Celle du oui pour l'AKP, le parti au pouvoir. Celle du non pour le CHP, le principal parti d'opposition. De 7h à 22h, toutes les demi-heures, la musique change en faveur d'un camp ou de l'autre. İhsan Oğuz, petite lunette et barbe blanche, distribue des affiches portant le mot « evet », c'est-à-dire « oui » en turc. Oui au régime présidentiel voulu par Recep Tayyip Erdogan. Peu importe le contenu du texte proposé, c'est avant tout pour son président qu'İhsan fait campagne.
Je dis oui pour que la Turquie avance, qu'elle ne soit pas dépendante de pays étrangers, pour qu'on produise nos propres tanks et nos propres avions. Mais pour tout cela, il faut un État fort, une volonté forte, un leader fort. On en a marre des leaders qui ne voient pas plus loin que leurs pieds. Erdogan, lui, il voit loin.
À peine 5 mètres en face, la tante du non reçoit la visite d'une députée d'opposition, Didem Engin. Contrairement au pouvoir, le parti CHP a choisi de ne pas tenir de grands meetings à travers le pays. L'opposition mène avant tout une campagne de terrain visant à expliquer le texte qui sera soumis ce 16 avril au vote des électeurs.
Il y a 18 articles. Il n'y a aucun article qui est lié au peuple turc. Tous les 18 articles sont pour le renforcement des pouvoirs du président. Si ce changement sera mis en place, le président aura des pouvoirs sans limite. Personne ne pourra lui poser de questions. En tant que député, je n'aurai pas la possibilité de poser une question concernant une décision qui sera prise par le président.
Si le oui l'emporte ce dimanche, le président deviendra chef de l'exécutif, sans premier ministre donc. Il pourra nommer et révoquer ses ministres et vice-présidents sans contrôle parlementaire. Gouverner par décret, dissoudre l'Assemblée, décider de presque toutes les nominations dans la haute magistrature et la fonction publique, et décréter l'état d'urgence quasiment lorsque bon lui semble. En cas de victoire, la quasi-totalité des mesures n'entrerait en vigueur qu'en novembre 2019, aux prochaines élections. Sauf celle qui permettrait au chef de l'État d'être membre et même chef d'un parti politique, applicable immédiatement. Or, c'est précisément cette mesure que le politologue Emre Badje, enseignant à l'université Marmara, juge la plus problématique.
Le chef du parti est tout puissant en Turquie. S'il est aussi chef de l'État, cela nous mène vers un système d'État-parti. D'autant que, dans le même temps, la réforme retire des pouvoirs de contrôle au Parlement. Par exemple, certains décrets présidentiels pourront désormais empiéter sur le domaine de la loi et donc du Parlement.
Difficile de se fier au sondage. La plupart des observateurs s'accordent à penser que la victoire, d'un camp ou de l'autre, se joue dans ces dernières heures de campagne, parmi les indécis, en proportion non négligeable dans les rangs du pouvoir. Toutefois, plus les jours passent, plus le oui se renforce, affirme Murat Gezici, directeur d'un institut de sondage réputé.
Au sein du parti au pouvoir, l'AKP, 70% des électeurs disent voter oui pour la personne d'Erdogan. Leur deuxième motivation, c'est la survie de la Turquie, face à la turcophobie et à l'islamophobie qu'ils perçoivent à l'étranger, et notamment en Europe. Face à ces menaces, les conservateurs et les nationalistes s'accrochent à Erdogan comme à une bouée.
Ce spécialiste s'attend aussi à une participation record des Turcs installés en Europe, traditionnellement plus favorable à Recep Tayyip Erdogan. Ces Turcs de l'étranger ont voté en avance. Or, la participation va jouer un rôle clé, estime Murat Gezici. Car en Turquie, ce sont les opposants à la réforme qui risquent le plus de s'abstenir, constate le sondeur qui avance une explication.
La campagne du oui est partout, dans les bus, sur les affiches, à la télévision. 82% des citoyens interrogés disent qu'ils observent une campagne active pour le oui, contre 35% pour le non. Et 70% des sondés estiment que le oui va l'emporter. Une partie des opposants pense que la situation n'est pas sous leur contrôle, qu'ils n'arriveront jamais à obtenir le changement, que leur vote ne sert à rien. Pourtant, si seulement 5% des opposants abstentionnistes allaient voter, ce serait une grande contribution pour le non.
Du côté de l'opposition, la campagne aura été difficile, marquée par le contre-coup du putsch manqué de l'été 2016 et par l'état d'urgence, par la quasi-absence des partisans du non dans les médias et par la mise à disposition des ressources de l'État au service du oui. Ça n'empêche pas Taner Kocak, un militant proche du parti pro-kurde, dont 13 députés sont actuellement emprisonnés, de garder espoir, sans pour autant se faire d'illusions.
Que le oui ou le non l'emporte, le régime répressif continuera. Si le oui l'emporte, le plus dur pour l'opposition sera de ne pas se démoraliser complètement. Mais si le non l'emporte, nous aurons ouvert une brèche dans ce régime. Nous pourrons alors espérer que cela mène un jour à une Turquie plus démocratique et plus libre.
Réponse ce dimanche 16 avril, en début de soirée.
De communautarisme à la puissance 10, une ville où deux communautés vivent entièrement séparées. Plus de 20 ans après la fin de la guerre en Bosnie, la ville de Mostar reste divisée physiquement, administrativement et politiquement. Les deux parties représentant les deux communautés, croates et bosniaques, n'ont même pas réussi à s'entendre pour organiser le dernier scrutin municipal. Pourtant, dans la société civile, des hommes et des femmes tentent de faire bouger les choses. À Mostar, le reportage de Mercia Nezic.
Nermin Mehic s'accorde ce matin-là une petite pause café entre deux livraisons à domicile. Cet habitant de Mostar, âgé d'une quarantaine d'années, sillonne la ville toute la journée. Il distribue notamment des colis alimentaires aux plus démunis. Ensemble pour notre ville, c'est le nom de son association d'aide humanitaire. Et ce nom a une résonance bien étrange ici. La ville est divisée en deux depuis la fin de la guerre, il y a plus de 20 ans. Elle dispose de deux postes et de deux compagnies d'électricité ou de bus, et même de deux services municipaux d'entretien de services publics. Pour les loisirs, il y a deux théâtres municipaux et deux clubs de foot. Et on pourrait continuer d'énumérer ces binômes encore longtemps. Ici, un mur se dresse toujours entre les Bosniaques à l'est de la ville et les Croates à l'ouest. Alors, une association qui réunit tout le monde, comme celle de Nermin, c'est rare. Lui ne tient aucun compte de cette ligne de démarcation.
Cette politique de division qui est menée dans cette ville, c'est de l'ethnofascisme. Et ce système se maintient au pouvoir par la peur. Ils expliquent aux électeurs croates que les Bosniaques veulent les dominer et vice-versa. Nous, notre projet se développe grâce à de simples individus qui aiment cette ville, qui ont grandi ici. Des gens de bonne volonté qui viennent des soi-disant deux côtés de la ville. Quand on se cotise, mais aussi quand on redistribue de l'aide, on ne prend pas en considération la religion ou la communauté des gens. On regarde seulement qui a besoin d'aide.
À Mostar, comme partout en Bosnie, les politiques ne parlent pas des difficultés du quotidien. Le débat public est colonisé par les questions identitaires. Ici, les habitants n'ont même pas pu voter aux élections locales organisées en Bosnie en octobre dernier. Les deux partis nationalistes au pouvoir dans la ville, le HDZ croate et le SDA bosniak, ne sont pas parvenus à organiser le scrutin municipal. Ils ont des désaccords sur tout. Officiellement, les Croates de Bosnie s'opposent à la réunification de la ville, alors que les Bosniaques y sont favorables. Mais la réalité est plus complexe selon cet analyste politique indépendant, Esad Baytal.
Les Croates paraissent être ceux qui sont pour cette division de la ville, en tout cas, ils la revendiquent. Mais je ne suis pas sûr que l'autre partie, l'élite politique bosniaque, soit sincèrement engagée pour la réunification de la ville. L'élite, elle, a aussi intérêt à ce que la ville reste divisée. Les deux partis communautaires ont chacun leur propre zone d'influence et ils ne rendent compte à personne de ce qu'ils font. Les habitants, eux, sont normaux en majorité et ils voudraient que tout le monde collabore. Ils se souviennent bien encore de la ville quand elle n'était pas divisée.
Si tout est bloqué du côté des autorités politiques de Mostar, ce n'est pas tout à fait le cas dans le reste de la société. Comme ailleurs en Bosnie, au vieux lycée général de Mostar, les élèves issus des différentes communautés fréquentent en général des classes différentes. Ils suivent des programmes scolaires différents au sein de ce que l'on appelle deux écoles sous le même toit. Mais à Mostar, au moins l'administration du lycée est désormais commune. Le conseil des parents et celui des élèves aussi. Ankica Čović, la directrice bosno-croate de l'établissement.
Nous sommes les seuls à travailler dans une école qui a une administration commune dans la ville, mais aussi en Bosnie-Herzégovine. Notre établissement est le seul également à disposer d'une section qui accueille tous les élèves. Il s'agit de la section bilingue français. Nous proposons également un cours d'informatique pour les élèves issus de toutes les communautés. Nous organisons aussi beaucoup d'activités extrascolaires en commun, du sport par exemple.
Les élèves du lycée de Mostar côtoient ceux du United World College. L'établissement international accueille des élèves issus de toutes les communautés bosniennes et du monde entier. C'est de bon augure pour Ari Sidriz, l'adjoint bosnien de la directrice du lycée de Mostar.
900 élèves transitent par l'établissement tous les jours. Ils se fréquentent, ils sont en contact. C'est une vraie richesse. Notre lycée doit servir d'exemple aux autres établissements en Bosnie.
Mais cet établissement élitiste n'est pas vraiment représentatif. Signe que le chemin est encore long. L'ancienne ligne de front qui continue de couper la ville en deux, pas justement devant le lycée général de Mostar.
Prado à Madrid présente une collection exceptionnelle, celle de l'Hispanic Society de New York. À l'origine de tous ces tableaux de maîtres, ces livres, ces documents, il y a un homme, un collectionneur passionné d'Espagne. Les explications de Martine Pouchard.
Archer Milton Huntington est un philanthrope passionné par l'Espagne qui a rassemblé ses collections durant 50 ans. Un collectionneur, fils d'une des familles les plus riches des États-Unis. À 12 ans, lors d'un voyage en Europe, il se prend de passion pour la culture gitane. C'est à 22 ans seulement qu'il se rendra pour la première fois en Espagne. À partir de 1900, il va méthodiquement acquérir des centaines d'œuvres d'art, mais à une condition, qu'elles soient achetées en dehors de l'Espagne pour ne pas priver le pays de ses trésors artistiques. L'exposition de Madrid propose un parcours chronologique et thématique de la production artistique espagnole jusqu'au XIXe siècle, une sorte de voyage initiatique. On peut admirer des sculptures romaines comme celle du torse d'une Diane chasseresse, des céramiques, des joyaux d'origine islamique et chrétienne venus de l'Alhambra, de Grenade ou de Cordoue, de l'art colonial, ainsi que des chefs-d'œuvre de la peinture espagnole, la Duchesse d'Albe de Goya, la petite fille de Velázquez, mystérieux portrait d'une enfant inconnu au regard énigmatique ou encore la magnifique sortie de bain de Joaquín Sorolla. Cette exposition ne montre qu'une infime partie des trésors de l'Hispanic Society de New York, qui rassemble plus de 18 000 œuvres d'art, 250 000 manuscrits et 250 incunables, des livres écrits avant 1500. Un inestimable trésor souvent méconnu qui nous permet de mieux connaître l'Espagne.
Yeah.
Et on terminera cette émission en musique et en Espagne avec vous, Vincent Tebal. Bonjour.
Bonjour Frédéric.
Puisque vous avez choisi de nous faire écouter une grande voix du flamenco.
On va aujourd'hui se laisser parcourir par un frisson très particulier, celui que provoque immanquablement la voix déchirante d'Inés Bacan, grande figure du flamenco depuis le début des années 90, quand sa carrière débute très tardivement. Il faut souligner ce parcours atypique, car si Inés Bacan vient d'une célèbre dynastie gitane flamenca, elle ne commence à chanter publiquement qu'à l'âge de 38 ans, une attente qui est avant tout le signe d'un caractère entier et d'un engagement total dans son art. C'est ce qu'on peut entendre aujourd'hui sur l'album Serrana, enregistré avec deux musiciens français, le guitariste Pedro Soler et son fils, le violoncelliste Gaspar Claus. Le trio signe un album à la fois austère et puissant.
L'Europe était réalisée aujourd'hui par Sophie Jeannin. Retrouvez-nous sur notre site RFI.fr, rubrique émission et accent d'Europe, et sur les réseaux sociaux. Très bon week-end, à lundi. Yeah.